que par vent de la capacité originelle de l'imagination humaine, ce n'est que par la croyance invincible que ce soleil, cette fenêtre, cette table est une vérité en soi, bref, ce n'est que par le fait que l'homme s'oublie en tant que sujet, et ce en tant que sujet de la création artistique, qu'il vit avec quelque repos, quelque sécurité et quelques conséquences. S'il pouvait sortir un seul instant des murs du cachot de cette croyance, s'en serait aussitôt fait de sa conscience de soi. Alors ça, c'est un texte en fait de Nietzsche, on va dire du jeune Nietzsche, un texte intitulé « Introduction théorétique sur la vérité et le mensonge au sens extramoral » qui est daté de l'été 1873. Alors ma question, elle pourrait commencer ainsi. Qu'est-ce qu'on fait avec cette bombe théorétique qui vise la théorie elle-même, vérité, concept, et la possibilité de la connaissance, qui frappe la philosophie à la tête et dans ses organes conceptuels, son organisation du monde? Et puis quoi, elle n'a pas déjà assez souffert comme ça, la philosophie? On l'a enterrée, non, déjà, et combien de fois déterrée, afin de vérifier que le cadavre n'avait vraiment plus rien à dire? On l'a remplacée par de drôles de wannabis, qui se font appeler du nom de philosophe dans des émissions culturelles, dans lesquelles il s'agit de dire ce que tout le monde sait déjà, ou devrait savoir déjà, ou aurait toujours dû savoir. Dans des librairies qui sauront mettre en évidence des manuels ou des vocabulaires, prenant la place de ce qui manque aux mots, et qui leur fera toujours défaut. Dans des universités ou autres lieux de production de savoir, comme il se dit, qui sauront mettre assez de distance entre Nietzsche et leurs concepts pour que ces derniers puissent purement et simplement demeurer indemnes de toute attaque. Et toi, l'auteur, te voilà bien facile dans tes attaques. Que feras-tu plus loin si ce n'est recouvrir d'un manteau d'idées les fissures nietzschéennes, si ce n'est ajouter aux anesthésiques ta posologie? Oui. Cette sécurisation par l'idée, le concept, la vérité, cette sécurisation veille à la porte de l'oubli. Mais ce que vise le jeune Nietzsche, le jeune Nietzsche surtout, celui des années 1870, avec sans doute avant lui les premiers romantiques allemands et l'idéalisme allemand dans ses phases primitives, est une forme de réveil. D'éveil paradoxal au songe dont naissent les mondes. Ce qui est frappé d'oubli est l'imagination, non celle censée reproduire la réalité, ce qui est déjà à l'heure conceptuelle, et déjà la marque d'un oubli, ou supposer cette vérité, cette imagination se conformer à une vérité déjà elle-même sous le coup d'une certaine conformation, mais l'imagination libre, détachée de tout, démente, aussi démente que l'être, enchevêtrait la perception, conformant le monde lui-même au désir et à ce que j'appellerais la pulsion euphorique. J'y reviendrai. Bref, folle du logis, bâtissant le logis lui-même. On aura toujours eu peur de cette imagination, et pas simplement les philosophes, tout le monde, tous les êtres au monde, y compris certains animaux au spectacle de leur propre peur. On aura eu peur des tours qu'elle peut nous jouer, certes, illusion, optique extravagante, monstre surgissant des caves de notre esprit. Là, une tête ensanglantée. Mais pourquoi? Pourquoi si ce n'est parce que cette imagination-là ne nous renvoie pas seulement au surplus de la réalité, à son débordement une fois les bords décidés, convenus, non, mais aux bords eux-mêmes, à leur approche originaire. Ne serais-je pas quelque dieu insu? N'est-ce pas aussi cela que nous dit Nietzsche? Touchant à cet imaginaire créateur, nous touchons au solipsisme. L'autre se fantomise en même temps que mon moi devient spectre. Alors, nous reculons. Mais devant quoi? De quoi s'agit-il avec les métaphores, ou disons le métaphorique, si ce n'est précisément du fait que nous ne sommes pas seuls, que nous ne sommes pas des dieux, et autre chose qu'un moi, ou qu'un autre moi? S'il y a métaphore, c'est justement au défaut de, pour des êtres finis, pris dans le temps, la durée, l'épreuve de la durée, le voyage. Plus on va vite, moins il y a de métaphores. Le déplacement dans l'espace ou dans le temps, le changement, l'altération, la métamorphose. Il n'y a de métamorphose que sous conditions métaphoriques. Voilà qui contrarie l'air du temps. Qui, l'air de rien, premièrement, est à l'éloge du changeant, du flexible, du nouveau, n'est-ce pas? On est dans les flux, semble-t-il. Le capitalisme se dirait héraclitéen si on le poussait un peu. Tout coule, tout passe, tout change, sauf ça, le capitalisme, le capitaloglobe, l'hydroglobe spéculatif, qui roule sur lui-même comme le loto à la télé, mais ne coule pas, à la différence du navire, du vaisseau terre asphyxié, l'air de rien dans son atmosphère, qui coule vers le haut, entre le roc et l'outre-espace, dans l'empire du milieu, le milieu du monde, substitué intégral en lieu et place de la nature, entre guillemets toujours, apprendre cette nature avec des pincettes, car ça pue la nature, ça sent le fauve échappé du zoo, l'être caca selon Antonin Artaud, la vie qui file entre les doigts, incapable de filer la métaphore, la nature exposée sur un fil électrique, la nature wireless, sans ombre, après déconstruction et constructivisme, après analyse et synthèse de laboratoire, avec un soupçon technologique. Deuxièmement, cet air du temps croit en la réalité de ce changeant. Il y croit dur comme fer, que si tout se transforme, c'est parce que tout se transforme vraiment, pour de vrai, comme disent les enfants. Ironie spectaculaire, à l'heure des réalités virtuelles, les canulars en lieu et place de scènes primitives, une foi inébranlable, fixe comme un socle métaphysique dans les pouvoirs du changement. Alors même que, troisièmement, le changement véritable impliquerait précisément la perte, la mort, la négativité, l'intransformable dont nous ne voulons plus entendre parler, si ce n'est sous la forme de l'indemne. Car le changement sans perte, sans déperdition, sans démesure, sans abolition de la mesure, sans gouffre sous nos pieds, sans risque ultime, n'est que confortable continuité, hybridation morne, sécurisation des existences. Principe d'inertie, c'est-à-dire flux sous contrôle, mouvement autorisé, devenir prévisible. Soit précisément ce qu'élaborent les sociétés de clairvoyance, à l'imaginaire fonctionnel, proactif, prétraçant l'horizon du futur pour maîtriser la verticale du présent. Or, l'imaginaire est d'abord négation. Il n'y a d'imaginaire créateur qu'à la faveur d'un écart, aussi faible soit-il, entre le monde et lui-même. Contre le principe d'inertie et la tautologie hors temps, le principe des écarts, celui qu'il y a entre toi et toi. L'image bénéfique prend le temps de te donner l'absence désirée, à partir de laquelle tu pourras sortir de toi. Levez-vous vite, orage désiré, qui devait emporter René vers les espaces d'une autre vie. Une caractéristique essentielle de la machine de contrôle occidentale est de rendre le langage aussi peu imagé que possible, afin de séparer autant que possible les mots des objets et des processus visibles. Ça, c'est William Burroughs. Il me semble intéressant, pour comprendre ce que sont les sociétés de contrôle, dont parlait le philosophe Gilles Deleuze. On parle toujours de contrôle en termes, si vous voulez, de traçage télétechnologique, de traçage donc des parcours et des actes de consommation que peuvent effectuer les individus. Il semble intéressant, si vous voulez, de prendre aussi la notion de contrôle à partir de la question du langage, hein, et de montrer que, comme le dit Burroughs, une certaine façon de séparer les mots de ce dont ils sont capables du point de vue de l'imaginaire est une façon également de contrôler les subjectivités. Un cauchemar. Il marche et change de forme au fur et à mesure de sa marche, chaque déplacement dans l'espace impliquant un changement de l'espace, comme dans Cube. Vous bougez le petit doigt et tout change, y compris votre petit doigt. Un effet papillon modifiant instantanément le papillon lui-même, et dans son effet, et donc son effet. Mais quel effet ? Comment celui-ci pourrait-il avoir lieu si tout change, au point même que le changement se précède soi-même et toujours ? Comment changer ce qui aura toujours déjà changé, avant même que cela ne puisse avoir lieu ? Visualiser un mouvement continu, une patte molle, sans aucune organisation interne, ni organe, débordant lentement de soi-même, de telle sorte que chaque changement local affecte l'ensemble qui, fluctuant, réagit sur chaque point local. ni vivant, ni mort à proprement parler, ni spirituel bien entendu, disons une sorte de matérialité flexible. Je prends tiens par exemple à un morceau de cire, et cependant que je parle, on l'approche du feu. Le voilà qui perd saveur et odeur, il devient liquide. Ne reste plus pour finir que quelque chose d'étendu, de flexible et de muable, nous dit René Descartes. Voilà ce qui demeure. Et cela ne peut être appréhendé par les sens qui ont cramé pendant l'expérimentation, ni par l'imagination qui s'épuiserait stupidement à envisager toutes les formes possibles que pourrait prendre ce morceau de cire déchu, ce seigneur détrôné. Non, seule une inspection de l'esprit peut rendre compte de ce morceau de pâte cramé, sourde et aveugle, mais désormais capable de devenir littéralement n'importe quoi, n'importe comment, dans n'importe quel laboratoire, pour n'importe quelle marchandise, sur n'importe quel marché, dans lequel vous pourrez trouver n'importe quel démocrate faisant des affaires avec n'importe quelle crapule d'extrême droite ou tout bonnement capitaliste. Résumons-nous. Petit 1, seul un être mathématique peut se transformer absolument. Petit 2, pour devenir un être mathématique, il faut cramer, se couper les mains, se crever les yeux, se boucher les oreilles, sauter les cheveux, sauter la chair, se broyer les os, en faire des liquides, devenir flux, puis encore plus fluide que les flux, superflu si vous voulez, superflu contre superglu, complètement décollé, complètement satellisé autour de la chair, ou la chair même immatérielle de la chair, son information bit 0 et 1, etc., fleuve digital, vie numérisée. Petit 3, mais à un être mathématique, il n'arrive rien, rien d'autre qu'un certain type d'opération mathématique. Le voilà qui change, mais sans changer, sans conséquence. En vous cramant totalement, vous avez certes ouvert la possibilité d'une transformabilité totale, mais cette condition atteinte vous voilà indemne de toute transformation possible, métamythique en quelque sorte. Vous avez oublié qu'en vous cramant, vous alliez mourir. Petit 4, ce qui peut se dire ainsi, se transformer absolument et ne pas se transformer. Il n'y a donc que transformation partielle, c'est-à-dire ratée. Une transformation parfaite serait une non-transformation. Résumons-nous. Pour se transformer, il faut mourir. C'est-à-dire se transformer, mais avec un écart considérable entre l'avant et l'après. Pas comme dans les publicités pour les lotions capillaires et le chauve qui après retrouve ses cheveux. Non. On a du mal alors à faire le pont entre l'avant et l'après. Le pont est détruit. Il n'y a plus de pont. On ne sait même plus s'il y avait un pont ou un gouffre. Avant, il y a un corps vivant et après, il y a un cadavre. Et on a du mal à faire le raccord. Quelque chose est perdu, brûlé, mort. 6 jours et 7 nuits, je l'ai pleuré et refusé à la tombe, jusqu'à ce que les vers lui soient tombés du nez. Alors, je me suis mis à craindre et redouter la mort et à vagabonder par la steppe. Ça, c'est l'épopée de Gilgamesh. D'ailleurs, on ne dit pas « il s'est transformé en cadavre ». J'ai un parent, il avait un cancer, mais un jour, il s'est changé en cadavre. Et depuis ce jour, il ne fut plus tout à fait le même. Il ne semble plus vraiment dans son assiette. Semble-t-il, il pourrit. Non, on dit autre chose. Ce n'est pas une nouvelle forme pour un même sujet. Ce n'est pas le même sujet. C'est le passage du sujet au non-sujet. Il est parti, dit-on. Et partir tout de même, c'est mourir un peu. On cherche une métaphore. Mais quand on dit « il est parti » ou « il nous a quittés », on ne peut pas dire qu'il va revenir. On ne peut pas ouvrir les paris ainsi. Aussi facilement en tous les cas. Car on sait sans le dire, on ose se le dire, qu'il s'agit de ce voyage dont nul n'est jamais revenu. Ou alors revenant, ce sera l'Esprit Saint. Ou alors revenant, ce sera le fantôme qui n'attend qu'une et une seule chose, c'est de partir enfin, de nous quitter vraiment, nous qui le retenons à demeure, nous qui hantons les morts pour qu'ils cessent de nous quitter, nous qui plaçons des spectres en lieu et place des ponts effondrés, pour inventer des passages entre des rives pourtant dissemblables, pour voir revenir celui qui serait transformé, croit-on ? Mais non. Quand je meurs, je ne se transforme pas. Je meurs et ça se transforme. Je vous quitte. Ciao. Même si je vous souris, d'où que je sois. Il n'a pas dit « où », notez-le, mais bien « d'où ». Pas un espace, mais une provenance, et donc une souvenance et une prévenance. Un temps spécial. Je quitte. Adieu. Et nous voici lançant d'autres ponts, des jets de langue pour sujets disparus. Telle est désormais la contradiction. Pour se transformer, il faut mourir. Mais mourir, cela veut dire autre chose que se transformer, quelque chose d'autre, de l'autre plus qu'altéré. Mourir, on ne sait vraiment pas ce que ça veut dire. Peut-être ne l'a-t-on jamais su vraiment. On aura toujours parlé d'autre chose en parlant de la mort, n'est-ce pas? Un peu comme quand il s'agit de parler de l'être. Car pour parler de l'être, il faut employer ce mot et ce sens. Et pour parler de la mort, il faut être mort. Mais la mort n'a rien à nous dire. C'est le terrible message du septième saut de Bergman. Non-savoir radical. Et dès qu'on fait parler la mort de ce côté-ci de la vie, on parle d'un être pour la mort, d'héroïsme, d'envie de sacrifice, comme la psychanalyse aura pu parler d'envie de pénis, d'envie de pénicilline pour se guérir de la mort, au point métamythique de la mathématique. Pas d'expérience de sa propre mort. Alors mourir la vie et vivre la mort, sage ou zombie, forteresse imprenable avec vue sur la mort, mais une expérience de la mort de l'autre, oui, laquelle, la plus devant et la plus ancienne. Je suis parti, il est parti. Un peu de néant est entré par la porte alors que j'étais enfant. Et je me suis mis à imaginer un certain nombre de fenêtres. Et il faut des fenêtres pour parler des fenêtres. Se transformer continuellement pour ne pas mourir, comme si la mort n'existait pas. Alors que dans Métamorphose résonne sans cesse métamorphose. On ne sait pas ce que veut dire méta. C'est-à-dire qu'on ne sait pas penser et agir le rapport de l'imagination à la négativité. Or, la métamorphose ne peut que se couper d'elle-même pour arriver, pour s'arriver sans pour autant s'atteindre. Elle ne s'atteindra pas à la fin. Elle se sera perdue en chemin. Elle se coupe veut dire qu'elle accepte de se jeter hors d'elle-même au risque de ne plus du tout être soi. Jamais, jamais plus. Au risque d'un méta ayant radicalement quitté, oublié jusqu'à l'oubli, défenestré, détruit la morphée initiale. Bien plus qu'une catastrophe. À tel point que le raccord avant-après soit lui-même perdu. À tel point qu'il n'y ait plus aucun mot pour cela que mutisme. Extrait d'une lettre électronique à F, Y et G, G. Petit 1, une poésie qui ne donne pas accès au visible est vaine. Petit 2, l'art n'est pas seul. Petit 3, le réel sans métaphore finit toujours en haine de soi ou de l'autre. Petit 4, la beauté a appris à être convulsive au défaut de son absence, juste en même temps d'ailleurs où elle a été injuriée. Petit 5, la métaphysique d'Adorno est métaphorique parce qu'il parle. Dans la résistance au monde fongible de l'échange, est irréductible celle du regard qui ne veut pas que le monde perde toute couleur. Ce qui dans l'apparence se refuse en se promettant est ce qui n'a pas d'apparence, dialectique négative. Mais il faut la loger, l'inapparence. L'inapparence est SDF, et la poésie est le seul programme social qui arrête de faire semblant que les SDF n'existent pas. Quand je parle de métaphore, il ne s'agit pas simplement ou seulement d'une figure de style, mais d'abord de l'opération comme telle, consistant à transporter ailleurs, plus loin, au-delà. Ce n'est pas d'abord un sens qui est transporté. Il ne s'agit pas d'abord, comme le dit Aristote, de l'application à une chose d'un nom qui lui est étranger par un glissement du genre à l'espèce, de l'espèce au genre, de l'espèce à l'espèce, ou bien selon un certain rapport d'analogie. Mais le transport est le mouvement même à l'œuvre dans une syntaxe, dans un phrasé, dans un poème, dans une danse, dans un ruban d'imprimante, dans un tableau, dans une existence humaine ou non humaine. C'est un pont qui se ferait passer lui-même au-dessus du vide. Et c'est pour cela qu'une œuvre d'art, qui est toujours métaphorique, est autonome, et vit autonome, qui se tient toute seule, sans appui autre que le monde qu'elle aura engendré. Je suivrai donc ici l'inversion proposée par le jeune Nietzsche vis-à-vis d'Aristote. Là où, pour le second, donc Aristote, la métaphore suppose un sens préalable qu'elle transporte. Pour le premier, la métaphore est première, précédant tout concept. Par cette inversion, Nietzsche modifie le sens de la métaphore. Elle s'origine dans une pulsion de transport, un instinct créateur, un art primordial, une imagination première formatrice de monde. Chacun est beaucoup plus artiste qu'il ne le croit, créera-t-il dans Par-delà bien et mal. Nous inventons notre propre perception. Nous sculptons notre vue au dehors. Nos yeux sont comme des outils qui travaillent la matière au loin. Nous composons des mix inextricables d'imaginaire et de perception, ce qui présage de nos désillusions à venir. C'est-à-dire que nous ferons sans cesse l'épreuve d'un retour de la perception dans le réel, ou d'une déformation dans le réel, comme signe que quelque chose ne cadre pas entre ce qui est et ce que nous voyons. Le réel se déforme sous le coup d'un retour du non-perçu. Et c'est un grand renfort d'imagination sécuritaire, sécurisé dans le concept, qu'il faudra consolider cette imagination première, la garantir contre l'effraction du nouveau. Et c'est la vraie question que de savoir si la déformation dans le réel peut être autre chose que déniée, aplatie à coups de marteau, et peut-être que l'art, non pas l'art primordial, mais l'art second, l'art qui symbolise l'imaginaire premier, cet art-là aurait pour charge de souligner le difforme, ou de le rehausser en beauté, que sais-je. À moins qu'il ne profite de l'écart entre le perçu lui-même pour viser la forme du sublime. L'imagination première formatrice de monde est inconsciente. Fichte aura dit la même chose que Nietzsche. Elle doit l'être pour être efficace. Elle doit demeurer inaperçue. Elle est l'inaperçu du percevant que seul perce un voir surconscient. Appelons cette imagination première formatrice de monde l'inconscient imageant. De l'activité métaphorique originaire, on ne peut parler que par métaphore. Et l'art prolonge dans le champ de la conscience, par l'établissement technique, cette activité métaphorique inconsciente. L'art du perce-voir. Nietzsche référera plus tard l'inconscient imageant à la volonté de puissance, celle-ci n'étant elle-même que métaphore. C'est encore l'oubli de la métaphore qui fait admettre la volonté comme l'essence vraie de toute chose, dira Sarah Kaufman. Il n'y a pas de propre à transporter. Il y a l'appropriation, une perspective sur le monde. Le jeu du monde est la métaphore à corps perdu, la grande illusion. Qui est artiste ? La vie. Toute espèce métaphorise au sens où elle transforme le monde à son image. Mais lorsque l'image se fixe et se substitue au modèle, la métaphore s'abolit au sein d'une réalité intégrale, d'un substitut ayant pour charge de réaliser sans reste le désincarné. Or, la vie coupée de ce qu'elle peut, c'est-à-dire coupée du métaphorique qui l'engage à s'étendre au-delà d'elle-même, plante ou se déplacer, animaux, est une vie amputée et mourante. Des germes qui, transformés par l'entreprise Monsanto en OGM, seraient non reproductibles. Nietzsche cherche cependant une métaphore qui soit plus qu'une métaphore, qui soit spectacle vivant, métaphore en tant que métamorphose. Fora égale morphée, transport égale changement de forme. Les deux genres de mouvements réunis. Que la métaphore doive être entendue comme transformation signifie que Nietzsche, tout en donnant une métaphore de la métaphore, fait de cette proposition aussi une fin de celle-ci. Ou alors, dire que toute sortie de la métaphore nous renvoie vers une autre métaphore, et ce, à l'infini. C'est qu'il faut se changer soi-même pour pouvoir métaphoriser. Pour pouvoir transposer, il faut pouvoir se transposer, avoir vaincu les limites de l'individualité, dira Sarah Kaufman, lectrice de Nietzsche. Mais cette transposition de soi exige la métaphore, etc. Métaphore en acte, trans chamanique, magie, elle marche vue du dehors. Image mouvement, cinéma, elle marche toute seule. Conclusion transitoire, petit 1. Derrière toute métamorphose, la pulsion euphorique. Petit 2. L'échec bénéfique de la métamorphose et possibilité de relance métaphorique. Accepter un certain ratage de la transformation, car c'est ce ratage lui-même qui va ouvrir le champ de la métaphore, où plus l'on suppose la métamorphose réussie, plus l'on éradique le champ de la métaphore. La réalisation intégrale que cherche une certaine forme de bio-art n'est autre qu'une vaste entreprise de démétaphorisation. Exemple, se faire greffer une oreille sur le bras. Stellar. Ce qui est insupportable avec la métaphore est le fait qu'elle implique le franchissement d'un vide sans combler ce vide. C'est un transport de béance, voire un transport béant. Le ratage signifie que quelque chose dans le processus de transformation s'est perdu, s'est égaré, s'est évanoui, a disparu, s'est soustrait, s'est nié, est au moins biffé ou bouffé. elle peut certes tenter d'intégrer cette perte dans le processus, et l'art s'en charge. Mais le processus de niveau 2 sera lui-même soumis à la perte. Il se sera fait manger, comme on le dit, d'un sort jeté. C'est un peu comme la seconde loi de la thermodynamique. Il y a de la chaleur qui émane autour de l'œuvre, et l'aura est la tentative d'inscription dans l'œuvre de cette chaleur, de cette déperdition, de cette perdition, de cette errance. La grandeur de l'art se mesurant à sa capacité de restituer ce qui ne se restitue pas. Un exemple, disons Pollock. On peut voir un chaos, ce chaos originaire en attente de formes à venir, mais qui ne viendront jamais. On peut voir autrement dit, et en même temps, superposé au premier, le chaos final des formes mort-nées, le chaos chaleur, le chaos qui reste et qui ne pourra rien devenir, ne pourra jamais se transformer, sauf à imaginer un univers en plus qui récupérerait celui-ci et le plongerait dans le processus de production. Le chaos chaleur est un genre d'intransformable, non pas en ce qu'il est indemne, intouchable en tant que tel, non pas en tant que point métamythique de la mathématique, mais en tant que limite externe, au-delà de laquelle il n'y a rien, rien que le rien que l'on fera entrer par la fenêtre de l'œuvre d'art. C'est la merveille de l'art, cette boucle précaire qui se noue autour du néant et se forme en spirale. The universe is a void in which there is a dream hole. The dream disappears, the hole closes. L'univers est un vide dans lequel il y a un trou de rêve. Le rêve disparaît, le trou se referme. Ginsberg.
Cette approche très dense. Et alors, peut-être pour lancer une question, si vous en avez, j'en aurais une que je t'ai déjà posée par mail et à laquelle tu as déjà commencé à me répondre. Mais ça m'intéresserait de t'entendre là-dessus et peut-être que tu partages ça avec tout le monde ici. C'était cette... est-ce que, en fait, cette... Cet endroit d'une métaphore originaire ne serait pas quelque part ce qu'on rechercherait dans un principe de fluidification absolue. Est-ce que ce ne serait pas une tendance naturelle de la marche du monde que d'essayer de revenir à cet endroit d'un surgissement qui serait aussi peut-être lui sous la forme d'une fluidité? Mais on ne le cherche pas à rebours, on le cherche en allant en avant. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire.
Ça me fait juste penser à une chose. Je serais obligé de te demander de quel monde tu parles. Je pensais à un entretien que j'avais fait avec un ami, un ex-ami en l'occurrence, avec Baudrillard, et on avait intitulé l'entretien « Entretien sur la dualité des mondes ». Parce que il y a peut-être un monde qui accepte de faire l'expérience d'un ressourcement au point même vide à partir desquels les métaphores pourraient éventuellement naître, mais il y a un autre monde dont l'ambition est d'éviter à tout prix d'avoir à se confronter à nouveau à cette épreuve initiatique de la langue, de l'expérience ou de la naissance ou de la renaissance. Et ce second monde, je dis qu'il remplace les métaphores par des substituts dont la fonction est justement de faire en sorte que le métaphorique soit aboli auprès de quelque chose qui éviterait tout transport véritable. On pourrait penser ici, si vous voulez, à des analyses qui ont été menées par quelques penseurs postmodernes comme sans doute Paul Murillo, qui ont beaucoup insisté sur le fait que dans la télécommunication contemporaine se joue finalement la tentative de retrouver une forme d'inertie, c'est-à-dire de faire en sorte que l'instantanéité des échanges tende vers une limite qui abolisse la communication elle-même au profit d'une fixité éternelle, hein, comme un marché sur un tapis roulant qui marche à votre place. Donc voilà, je diviserai le monde en deux.
Et en même temps, est-ce que c'est pas deux moments, enfin, est-ce que c'est pas deux moments d'un même monde plutôt? C'est-à-dire que si tu divises le monde en deux, il y a une rupture absolue, c'est-à-dire qu'il y a une difficulté de passage d'un monde à un autre. Est-ce que c'est pas plutôt deux pans d'un même monde?
Mais ça, c'est la question d'une politique de l'imagination, qui dit politique des divisions du monde, c'est-à-dire affrontement. Et pour la réunification, on attendra la fin des temps, mais en attendant, on aura toujours à un moment donné à choisir l'endroit d'où on se place, c'est-à-dire l'endroit où on se situe soi-même par rapport à ce qu'on recherche, au moins. Quitte à savoir si on trouve ce qu'on cherche, ça, on peut toujours rêver. Mais en tout cas, il y a un positionnement subjectif qui consiste à choisir le lieu que l'on va défendre becs et ongles contre ce qui nous apparaîtra comme cette autre partie du monde qui s'y oppose. Donc, pas d'un, deux.
Il y a des réactions ou des questions ou des souhaits de clarification.
Est-ce que vous pouvez donner une définition de la métaphore?
Une définition de la métaphore.
Oui, c'est vrai que à un moment donné, une façon de dire ce que j'essaie de dire, c'est métaphorique, pour éviter justement peut-être de penser simplement à la métaphore comme une figure de rhétorique, etc. Et c'est pour ça que je reprends ce mot, je le coupe en deux, je mets un trait d'union entre les deux, et puis je vois comment on passe du mot de méta, c'est au-delà en fait, hein, c'est un mouvement de transition qui... La métaphore déjà méta, c'est-à-dire un mouvement, disons quelque chose qui, je crois, est de plus en plus difficilement audible aujourd'hui, ce mot, hein, comme dans métaphysique. On a du mal avec ce préfixe, le préfixe de méta. Fort parce qu'il s'agit, pour le coup, de phoros et de transport. Et donc cette métaphore, c'est simplement pour moi quelque chose que je ne pense pas simplement en termes poétiques, par exemple, en termes de figure de style, mais comme un mouvement de déplacement hors de soi-même. Et pour moi, le mouvement de déplacement hors de soi-même signifie être au monde. C'est-à-dire que pour moi, la métaphore, c'est ce qui nous met au monde. Hein. On vient au monde, justement, c'est déjà une métaphore. Et être au monde, c'est être pris dans le jeu des métaphores, ce jeu merveilleux, que le langage rend aussi possible. Il y a sans doute des gestes qui permettent ça. Et donc... Et c'est la métaphorique et le mouvement d'accueil pour des sujets qui sont au monde. C'est-à-dire dehors. Parce que pour moi, sortir de soi, tel que je l'entends, tel que par exemple Bataille l'entend, tel que Heidegger l'entend, de façon différente, mais néanmoins, ce que moi je pourrais en dire aujourd'hui, ici et maintenant, c'est que être au monde, c'est être dehors. Donc sortir de soi, c'est pas seulement qu'il y a un avant de soi et puis ensuite on sort de soi, c'est que nous sommes toujours déjà sortis. Nous sommes déjà dehors. C'est ça la métaphore.
Ça participe à des processus d'émancipation.
Pourquoi pas?
Oui, ouais, je pense.
Ouais, on pourrait.
Politiquement même, de sortir de sa condition. Et là, c'est vraiment pas du tout. Il y a plutôt une logique d'enfermement dans la condition,
ouais.
Qui n'acceptera pas les métaphores.
Oui, tout à fait. Ouais.
Donc l'imagination, donc tout ce qui met au dehors d'une condition prédéterminée.
Oui, complètement. Quand tu dis ça par rapport à la question de on reprend le texte de Nietzsche sur, je sais pas, très simplement ce qui est rigide et ce qui est ordinaire dont il parle, ce dont tu parles, c'est l'aliénation est toujours au nom de. Celle dont tu parles en tout cas, l'aliénation dont tu parles, donc l'absence d'émancipation. toujours à partir de bords stricts, délimitants. Donc la métaphore, c'est aussi la promesse qu'on n'est pas tenu à demeure. Donc l'émancipation, c'est tout de même qu'on n'est pas tenu à demeure. Et pour ça, il faut, à mon avis, pouvoir rendre possible une émancipation suppose pour moi des métaphores, justement, au sens simplement de tu n'es pas tenu à ça. Tu n'es pas dans une obligation infinie de rester là où tu es. Et ça, il faut aussi que ça soit dit et énoncé. Énoncé comme un passage au-delà, c'est-à-dire simplement qu'il y a, il n'y a pas que ce qu'il y a. Voilà. Dès qu'on dit il n'y a pas que ce qu'il y a, dès qu'on dit A est différent de A, on rentre dans le métaphorique. Dès qu'on dit A égale A, on reste dans un certain principe d'identité purement logique qui maintient à demeure A et A. Tu n'es que ça.
Par rapport à ça, j'y vois un paradoxe par rapport à une philosophie de l'immanence, une politique de l'immanence, parce que justement, est-ce que toi, tu proposerais une critique de la philosophie de l'immanence où celle-ci proposerait un état, plutôt l'immanence telle qu'elle a été décrite ou pensée par Deleuze, par exemple, serait plutôt une pensée de la possible libération de la subjectivité, si je ne me trompe. Est-ce que toi, tu te poses en faux contre ça? Est-ce que tu penses que ça donne prise justement à cette tendance à une transformation absolue et donc à une fixité? Comment tu positionnes ta pensée par rapport à la philosophie de l'immanence qui vient juste avant, en fait, dans l'histoire?
Il se trouve que, il y a plusieurs façons de répondre. D'abord, il y a différentes formes d'immanence. De même qu'il y a différentes formes de transcendance. L'immanence compacte, qui étouffe par manque de métaphores, et qui est celle de la transcendabilité infinie, donc de l'inertie totale, donc comme je viens de le rappeler à l'instant, il s'agit d'une immanence. Bon. L'immanence, je l'appelle l'immanence compacte, par exemple. L'immanence dont parle Deleuze et Guattari implique une variation et des lignes de fuite. Donc on n'est pas dans le même régime. Ceci étant, une fois que cela a été dit, il n'empêche que l'immanence signifie couler à l'intérieur. Il y a quelque chose dans le terme d'immanence qui signifie, dans le mot lui-même, le fait de rester à l'intérieur. Et je suis obligé, de plus en plus, ça c'est une histoire personnelle de philosophe, ça n'intéresse pas forcément grand monde, mais je suis obligé de plus en plus de développer une certaine idée de la transcendance. Mais là aussi, il faudrait distinguer deux transcendances. La transcendance, si vous voulez, qui a un T majuscule qui pose une infinité ponctuelle en dehors de soi, et la transcendance finie, hein, pour reprendre, je crois que c'était la Coulabard qui emploie cette expression quelque part, je crois, la Coulabard, une transcendance finie qui est simplement le mouvement d'extase, pour dire avec Bataille, de sortie de soi-même. Donc, effectivement, je crois qu'aujourd'hui, pour moi, j'ai pendant très longtemps soutenu une philosophie de l'immanence, je ne la soutiens plus, au sens où je crois fondamental d'aujourd'hui, ce n'est pas moi qui le décide, j'ai envie de dire, enfin je décide ce qui a déjà été décidé avant moi, comme toujours, comme tout individu, je veux dire, il y a quelque chose qu'il faut aujourd'hui, je crois, défendre du côté du dehors, hein, c'est-à-dire ras-le-bol d'entendre dire qu'il n'y a pas de dehors, quoi, du dehors sinon j'étouffe, enfin, ce n'est pas la phrase de Paul Valéry, c'est tout du possible sinon j'étouffe, mais dehors sinon j'étouffe. Donc aujourd'hui il faut des dehors, il faut des espaces ectopiques ou atopiques, des brèches, donc de la transcendance au sens précis que je viens de donner à l'instant. Pas du tout pour moi en tout cas, du divin, ça ne pose pas de problème, je peux vivre en bonne cohabitation avec quelques chrétiens minoritaires au sens deleuzien du terme, ceux qui ont un rapport à la religion de type minoritaire, c'est-à-dire ininstituable, j'ai aucun problème avec ça. Mais donc, j'ai oublié le début de ma phrase. Je défendrai aujourd'hui une philosophie de la transcendance, sachant que l'immanence pour moi est toujours un élément de transgression nécessaire en vue
de la sortie de soi dont je parle. On peut toujours utiliser le principe d'immanence comme un moment en fait de transgression. Voilà. Mais c'est certainement pas pour moi aujourd'hui le point fondamental. Aujourd'hui, on a besoin, je crois, de promettre et donc de métaphoriser l'existence des seuils et donc des dehors, au moins par les seuils. Donc, en ce sens-là, transcendance.
L'apport de la psychanalyse
je
répète pour le son.
De ce jeu, sur le langage, et notamment beaucoup sur la métaphore et les expressions imagées.
Alors là, tu me poses un problème parce que j'ai pour l'instant mis de côté, dans mes propres recherches et travaux, tout un retour sur les questions métaphore, métonymie, Benveniste, etc., Lacan, donc y compris les premiers séminaires sur la métaphore paternelle et sur tout ce qui engage aussi. En revanche, la seule chose que je pourrais dire pour l'instant, dans ce que je peux dire pour l'instant, dans ce qui oriente ce que j'ai pu dire, c'est que par rapport, tu disais. Deleuze, Lacan, etc. Bon, mais il n'empêche qu'il y a un point commun, en tout cas pas pour le premier Lacan, pas pour le Lacan du stade du miroir, mais parce que là encore, mais assez rapidement après, il y a une méfiance fondamentale, je dirais, pour l'imaginaire. Deleuze, par exemple, Deleuze et Guattari, dans Mille Plateaux, il dit sans arrêt, attention, le devenir dont on parle, c'est pas du tout métaphorique, hein, c'est, il y a vraiment, voilà, ça... Ça devient, alors après il y a une théorie du devenir, on pourra en parler, etc. Mais tout ce que je peux dire, c'est qu'il y a eu, à mon sens, une sorte de mépris, au bout du compte, y compris chez Lacan, de la question de l'imaginaire. Hein, ce qui donnait quand même pour la psychanalyse, Lacan disait, je ne sais plus où, de toute façon, le but d'analyse, c'est d'arriver à... Il ne s'agit pas d'arriver au réel absolu, mais il s'agit d'arriver à un réel suffisant qui soit supportable pour le sujet, etc. Il n'empêche que dans les analyses faites par des lacaniens, il y a une telle éradication de l'imaginaire, et ça laisse parfois des gens tellement en prise avec le réel que c'est absolument inviable. Hein, et après, ça les engage à faire des recherches, je sais pas, ils peuvent tourner religieux, parce qu'à un moment donné, voilà, sans imaginer, on crève, quoi. Donc, je ne réponds pas exactement à ce que tu viens de dire à l'instant, mais ce que je sais, c'est qu'il y a sans doute eu, dans la pensée, disons, structuraliste et post-structuraliste, un certain mépris pour l'imaginaire. Hein, voilà, il faut traverser le fantasme, mon œil. Voilà, je répondrai ça pour l'instant. Hein, c'est insuffisant, mais enfin, voilà. Ceci étant, ils ne sont pas les seuls à avoir méprisé l'imaginaire. Hein. Castoriadis écrit des choses intéressantes là-dessus. Il montre effectivement comment l'imaginaire a été refoulé dans la tradition philosophique, en tout cas, occidentale. C'est vrai, c'est faux. Là aussi, il faudrait tout reprendre. Il faudrait reprendre les différentes phases. Hein. Le Lacan du stade du miroir n'est pas le Lacan borroméen. Le Hegel de la philosophie de l'esprit n'est pas le Hegel de la phénoménologie de l'esprit, etc. Il faudrait reprendre chaque penseur pour voir comment il y a à l'intérieur même de la pensée un refoulement de l'imaginaire. Voilà.
Et qu'est-ce qu'il reproche à l'imaginaire pour le refouler à ce point-là ou le refuser ?
Alors, pour Deleuze et Guattari, c'est parce que quand on dit que c'est imaginaire, c'est que c'est pas vrai, c'est que ça ne se transforme pas vraiment. Qu'il se passait comme si, pour le coup, utiliser ce mot, ça serait une façon de maintenir, comment dire, en parlant d'image, il semblerait qu'on rate la transformation réelle. Du côté de Lacan, c'est parce que l'imaginaire, c'est le leur par excellence, disons. Alors là, il s'agit quand même de sortir des représentations imaginaires, ce que je peux tout à fait entendre. Mais pour le coup, il faudrait peut-être distinguer entre deux formes d'imaginaire. L'imaginaire, c'est sans doute toujours penser à partir de ce qui recouvre le réel. Or, par exemple, je ne suis pas du tout certain que dans le fantasme, le réel soit entièrement recouvert par l'imaginaire. Je n'en suis pas.
Peut-être qu'il y avait aussi un truc d'époque assez révolutionnaire, que peut-être l'imaginaire aurait été un peu bourgeois. Enfin, je pense que c'est un peu ça aussi.
Tu as raison, oui, c'est vrai. Oui.
Il y avait une réaction typiquement d'époque.
Oui.
C'était sentimental ou romantique ou imaginaire, empêchait une forme d'action révolutionnaire. Enfin,
oui, c'est vrai. Alors qu'en fait, on compte aussi.
Attache, même si
il
y a une volonté d'attachement.
Oui. Oui, qui dit imaginaire dit pas vrai, qui dit imaginaire dit utopie, qui dit imaginaire.
Là,
dit,
il y avait comme un. Qui dit imaginaire, qui pensait.
Non, mais.
Vient de Charcot, qui a commencé. J'ai défendu l'expérience de Charcot sur l'hypnose et tout ça, qui faisait sortir du corps des images du monde intérieur. Et c'est marrant parce que, pour parler de cette espèce de contradiction avec la bourgeoisie et tout ça, ce Charcot était aussi un art. Il aimait bien les arts décoratifs, il était lui-même, il faisait de la poterie, tout ça. Et il a soutenu des mecs de l'art nouveau. Alors que l'art nouveau est considéré comme un mouvement assez conservateur et vraiment comme une mamie d'une certaine forme de bourgeoisie pour faire un art français après 1889. Il y voit néanmoins une forme d'émancipation de l'intérieur d'un univers vers l'extérieur, mais chez certains artistes exceptionnels, ce qui n'est pas le cas de tous les autres. Et pour dire aussi que finalement, au début de la psychanalyse, il y a quand même une certaine radicalité. Quand on va vers un langage qui est épuré chez Lacan, ben, au départ, il y a quand même Charcot. Il y a un délire où il y a quelque chose.
Jung aussi, voir les dessins, très beau dessin de Jung, extraordinaire. Je vous conseille de voir les. Je n'ai pas le titre en français, là, c'est le Red Book, là, mais c'est sorti en américain, pas en français, je crois. C'est un livre que, écoutez, moi je ne suis pas spécialiste de Jung, c'est un livre que Jung a traîné pendant 25 ans à peu près, donc il a calligraphié à la main, etc., avec des dessins de lui. C'est tout à fait extraordinaire de voir ces dessins. Très beau. Beaucoup plus. Jung est beaucoup moins un bourgeois conservateur que Freud, par exemple, là, en termes de.
Concrète, comment vous voyez le fait d'appliquer cette idée de métaphore, si on est, ce que j'ai compris, il est sur un système qui va essayer d'empêcher ça pour garder son pouvoir, quoi, quelque part. Donc comment faire pour pas justement être mis dans ce flux et être effectivement immobilisé et noyé dans ce flux de continuum de flux comme ça constant qu'on vit en permanence et de façon concrète quoi, par exemple un artiste qui veut à la fois faire avoir son travail puisque c'est quand même s'il fait un travail il veut le présenter aux gens et à chaque fois on lui demande ben, justement de se formater de se on lui demande de faire comme tout le monde quoi, alors que lui il veut proposer quelque chose d'autre et comment arriver à gérer cette contradiction, enfin je sais pas si vous avez une réflexion là.
J'ai l'impression que ce que vous dites là, c'est valable, à mon avis, pour tout sujet. Si on accepte qu'un sujet n'existe que dans la forme d'une déprise, c'est-à-dire dans la forme d'un écart par rapport à quelque chose qui serait supposé régler la loi de l'espèce ou la loi d'un groupe, il me semble que ce que vous dites pour un artiste, on pourrait l'envisager pour tout individu, hein, en fait, non ? Et la seule chose que je peux dire, c'est que lorsque. Les flux sont trop massifs, il faut les bloquer. sont à lire, un livre très intéressant, je disais ça tout à l'heure à Raphaël, je vous conseille de l'acheter, de Bernard Haas, qui s'appelle Les mots et les actes. Bernard Haas, A-S-P-E. Les mots et les actes, je vous conseille, c'est très bien, c'est une réflexion sur les questions politiques, sur la question de mouvement de blocage, justement. Comment l'expression même de mouvement social est peut-être quelque chose qu'on doit laisser tomber.
Après cette question autour de la psychanalyse et de l'imaginaire, moi j'aurais peut-être un rapprochement à faire avec des recherches en économie sur cette idée de la transgression, de la transcendance par l'immanence et vice-versa, enfin, je ne sais pas comment on peut l'appeler, mais en tout cas, je me rappelle avoir parlé avec l'économiste Frédéric Lordon. Et je sais que ces recherches actuellement sont celles d'une sorte de point d'équilibre entre un principe de transcendance et un principe d'immanence. Donc j'ai l'impression qu'il y a quelque part maintenant, après ces traversées comme ça de la pensée dans les 20-30 dernières années, quelque chose qui serait maintenant une tentative de confronter ces deux approches pour essayer d'en retirer quelque chose qui conviendrait à l'époque quelque part. Je ne sais pas si tu as le même sentiment ou pas.
Sur une tentative d'essayer un peu de sortir de cette opposition entre ces deux termes, tu veux dire ces deux concepts sont des pièges hein, absolus hein, pour la pensée. Et c'est pour ça que j'essaie de déminer ce piège en proposant dans Klinamen notamment... de faire un schéma à six entrées, quoi, enfin trois transcendances, trois immanences, parce qu'il me semble que sinon on s'en sort pas, ou bien on sait jamais vraiment de quoi on parle qu'on emploie ces concepts là, quoi. Donc je crois, encore une fois, je vais te redire que je crois pas tel, enfin je sais pas, il y a un moment donné quand même, quelque chose qui se divise, enfin, je vois pas. On peut par contre effectivement d'une part préciser l'orientation qu'on peut avoir dans sa propre pensée, d'autre part montrer aussi les proximités qu'il peut y avoir entre ce qu'on peut appeler soi-même transcendance et ce que d'autres cherchent dans l'immanence. Ces choses sont très complexes, mais néanmoins, dans tout ce que je peux constater en ce moment en termes de pensée, il y a toujours à un moment donné, il faut choisir un nom. Il semble de ces deux concepts impliquent de choisir un nom. Oui, je ne sais pas. Par exemple, je ne sais pas, Derrida, c'est la transcendance infinie. C'est une transcendance où il n'y a jamais d'immanence, par exemple. C'est une transcendance sans rien qui la précède. C'est une transcendance pure. La tour, si on regarde bien, contrairement à ce qu'il dit, c'est une immanence. C'est un penseur de la continuité. Mais après, c'est un problème d'analyse. Mais non, j'arrive pas à voir quelqu'un qui aurait pu trouver une sorte de... Frédéric Lordon, je connais pas assez bien. Je sais qu'il dit que pour lui, la servitude volontaire, ça n'existe pas, ce qui me semble aberrant, mais je connais pas assez bien. Je connais pas assez bien ses thèses. Je sais pas ce qu'il dit assez bien sur en termes économiques. Tu vois, je pourrais pas. Je constate que les gens qui refusent la négativité sont des penseurs d'immanence. C'est-à-dire que je constate que la plupart du temps, qui dit immanence dit refus du négatif. Dans les polarités, la négativité, la prise en considération de la négativité est plutôt du côté de ceux qui pensent une forme de transcendance. Ceci est un de mes problèmes, c'est que j'ai un peu de mal. Je pense que ça a été assez clair ce soir, j'en ai même rajouté des couches. Surtout, je n'ai pas parlé de la mort, ça me fait plaisir. Je vous remercie de m'avoir écouté parler de la mort, ça me manquait. Et on n'en parle pas tellement de la mort, en fait. Et je dois parler beaucoup de négativité, de couche, de mort, etc. Non, enfin. Et ça m'a fait du bien. Merci beaucoup. Non, mais voilà. Bon, alors donc.
Remarquez, nous, ça nous a fait plaisir de servir à quelque chose.
Non, mais je plaisantais, mais c'est pour dire, de façon de dire, ce que. Immanence et négativité, je ne
pas, aidez-moi si vous voyez immanence et négativité.
Je vous entends.
Ou alors si, sur pareil, après, hein, voilà, et Hegel, par exemple. Hegel, il est toujours embêtant, on ne sait jamais. Il est toujours tout en même temps. Hein. Il divise tout, il unifie tout. Enfin, même pas forcément dans la philosophie, je ne sais pas, dans la pensée. Je ne sais pas si vous avez des exemples, allez-y, hein, quelqu'un que vous pourriez placer à la fois dans une pensée d'immanence, et qui sera en même temps quelqu'un qui insisterait beaucoup sur la question de la négativité. Bouddhiste, non ? Quelqu'un connaît les bouddhistes, non ? Bouddhisme, comment c'est ? Le bouddhisme, Raphaël ?
Je ne sais pas. C'est pas ça. Et puis surtout dans ta problématique, ton axe, ça a été dit plusieurs fois, hein, ton axe est très politique en fait, une dimension politique à mon avis très 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 forte, hein, de déprise, de non-assujettissement à la règle, à la loi. C'est quelque chose de très, très fort. Le bouddhisme, c'est assez compliqué parce que c'est y a une dimension effectivement religieuse, et de ce point de vue-là, on est dans l'idéologie, hein, mais il y a aussi potentiellement, selon les sujets, une dimension mystique. Et c'est là où j'introduirais peut-être un écart par rapport à ce que tu as formulé, c'est-à-dire, pour moi, il y a une autre posture, très rare, hein, c'est peut-être un être sur un million, mais il y a une autre posture que celle de s'engager dans un rapport au pouvoir. Et pour reprendre la question bouddhique et taoïste, c'est la non-dualité, justement. C'est-à-dire, on comprend bien à quel point la question de la dualité est nécessaire, parce que ça permet justement de ne pas être complètement happé par le système. C'est ce que tu disais en disant, il y a autre chose que le « il y a ». On n'est pas happé par le système, mais il y a bien une autre posture qui n'est pas une posture de pouvoir et qui néanmoins est non duale. Et moi je m'y retrouve.
Mais est-ce que cette non dualité ce serait pas cet endroit de la métaphore originaire, justement, je sais pas, non? Est-ce que cette non-dualité, ce ne serait pas l'endroit dont parle Nietzsche de la métaphore originaire ?
Je ne pense pas que Nietzsche soit un être mystique. Nietzsche, pour moi, c'est vraiment un philosophe, c'est-à-dire quelqu'un qui a deux pieds, qui est sur une crête, et qui est à la fois un sophiste et un mystique, et qui est un pont, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui, de ce point de vue-là, n'est pas... C'est là où le mystique, pour moi, est effectivement quelque chose comme un en-deçà du langage, donc de la métaphore, mais pas un en-deçà du langage pour un totalitarisme. C'est pour ça qu'il est nous, pour moi, hein, mais je ne veux pas l'affirmer comme proposition... pour tous, mais pour moi, il y a une autre posture non politique par rapport à la question fondamentale du pouvoir.
Voilà. En tout cas, ça ne m'embêterait pas du tout de penser, tu vois, par exemple, ce qu'on ne peut dire, il faut le taire. Prenons, c'est une mystique, Wittgenstein, etc. En même temps, ce qu'on ne peut dire... on peut aussi le métaphoriser, enfin, c'est-à-dire que pour moi, il y a, tu vois, enfin, je vois un lien extrêmement fort, puissant, originaire entre ce qu'on pourrait appeler, un point mystique et la poétique ou le métaphorique. Enfin, je vois pas... parce que dans ce que j'ai dit, c'était politique, beaucoup. Dans ce que j'ai écrit, c'était quand même quelque chose qui concernait...
l'élaboration imaginaire perceptive du monde. En plus. Mais enfin bon, t'as raison, tu as raison ce que tu as dit. Hein, ça, fondamentalement, tu as entièrement raison sur cette dualité et donc sur cette nécessité d'un dehors par rapport à un point primaire qui le précède. Et donc, oui, une forme de division en tout cas, et donc une dualité née de cette division. Tu as raison.
Non, mais c'est pour répondre à ton interrogation.
Oui, par rapport.
Là, c'est très juste, ça. Il me semble, encore une fois, je ne peux pas. Je te suis sur le fait que la plupart des auteurs de l'immanence, quelque part, effectivement, je ne trouve pas qu'ils reconnaissent suffisamment la négativité. Et c'est pour faire écho à ce que vous disiez, c'est-à-dire, pour moi, c'est ça votre écart entre un peu vous deux, c'est si vous vous ramenez plus du côté de l'immanence, c'est vrai que c'est très contemporain, l'immanence, hein, ça revient très très fort depuis plus de 30 ans maintenant, mais si toi tu insistes sur la transcendance, en fait, moi je n'emploierais pas le terme transcendance, hein. Mm-hmm. J'aurais plutôt une dualité. Tu as fait écho à Baudrillard. Baudrillard effectivement est quelqu'un vraiment qui porte très fort cette dualité.
Ah oui, c'est clair, hein, c'est massif. Hein,
mais chez toi, cette dualité pour moi elle s'arc-boute vraiment sur un projet politique. Mm-hmm. Le terme émancipation est.
Mais
en quoi ça.
Merci, c'est gentil. C'est, je rentre à Lyon avec ça, en fait.
Je pense qu'il y aurait de contradictoire entre ce truc de dualité et d'être politique et le fait que tu parlais de cet être sur un million rare qui serait. Qui ne céderait pas aux logiques de pouvoir, en fait. Enfin, je pense qu'on peut être politique, être contre, pour, être dans des pensées imaginaires, mais dans des pensées d'émancipation aussi, et de passer des logiques de pouvoir. Enfin, j'ai pas tellement compris la contradiction qu'il y aurait entre. Peut-être pour répondre aux immanences et aux.
C'est un être, maintenant, c'est une construction, une représentation sans doute imaginaire que je me fais là, et que je vous présente trop succinctement. Mais c'est un être ni pour ni contre. C'est quelqu'un qui a fait un pas de côté, un pas. Ailleurs, c'est pour sortir du labyrinthe.
Mais
parce que c'est un labyrinthe, la question du pouvoir. On ne peut pas sortir du labyrinthe en labyrinthant. Il faut sortir par un axe.
Pour avoir un point de vue d'en haut, alors.
Après la question.
C'est mystique, du coup.
Oui,
ça serait mystique.
Mais oui, c'est mystique. C'est pour ça que je l'ai prononcé comme tel. C'est pour ça que j'ai prononcé comme tel. C'est-à-dire, après, fondamentalement, il y a une non-localité.
Il faut être vachement prétentieux pour sortir de la masse. Je sais pas.
Prétentieux,
c'est
pas
ça. C'est naturel.
C'est pas une question de. Ce que je voulais simplement dire. Ce que je voulais simplement dire, c'est qu'il y a une autre posture possible.
J'ai entendu.
Voilà. Mais je ne voulais pas hiérarchiser. Donc c'est pas une question de prétention.
Non,
pas de hiérarchisation.
Non, mais déjà, il y a un être parmi un million, déjà ça me.
Bah oui, parce que
c'est l'élu, c'est le.
C'est une métaphore.
Non, c'est pour dire simplement que ce que j'évoque. C'est sans doute tellement rare que nous ne l'avons pas rencontré.
C'est un idéal auquel tout le monde aurait accès, de ne pas céder à des logiques de pouvoir. Moi, je pense que c'est un idéal commun à tous, qui doit tenir. Enfin, je le veux pour tous, pas pour un être. On le veut pour. Enfin, il est possible à tout le monde, j'espère. Et c'est pas en passant par la politique qui pourrait être émancipatrice ou l'art ou l'imagination, que ça, c'est le fait d'être. D'être un être parmi un million, enfin, il y en a plusieurs, quoi. Je pense que c'est quand même.
Je dois vous quitter, ça m'embête énormément, parce que là, moi, j'ai plein de trucs à dire, et puis je pensais à Icare.
On reste ensemble encore quelques minutes, ça ne vous ennuie pas.
Icare et la montée, après, comment sort du labyrinthe sans brûler aussi, c'est ça le truc, hein. Mais il y a beaucoup après, là. On reprend ça plus tard, d'accord. On se retrouve là. Dans un mois, la mémoire, je suis confus, c'est vraiment les problèmes de.
En tout cas, merci parce qu'on a quand même eu le temps de, d'échanger de manière riche et ça, c'était important. Bon.
Okay. il faut pas le subir, le pouvoir, pour pouvoir.
Salut. Ça va pas dans le flux, c'est ça. Ça roule. Alors, tout ça, c'était prévu. Hein, donc, si vous avez encore un tout petit peu de courage, ce que j'aimerais faire, après cette intervention de Frédéric, c'est rebondir dessus pour revenir à ce terrain de travail, ce terrain d'expérimentation. Voir comment les choses s'articulent à partir de cette, à la fois de cette pensée et puis de cette situation proposée aux artistes et proposée au public aussi et qui pose un certain nombre de questions. Alors je vais essayer de résumer parce que c'est un peu long et qu'on a déjà pris beaucoup de temps. Mais j'avais quand même envie de vous faire partager un certain nombre de réflexions qui ne sont pas encore des conclusions. Et puis je prenais aussi le prétexte, ou en tout cas je prends appui sur la proposition de Julien d'écrire aujourd'hui de travailler sur les pourquoi, pourquoi les machines n'ont pas de pourquoi, c'est-à-dire sur la raison d'être des choses, et donc c'est pour ça que j'avais envie de décortiquer ce dispositif de plutôt que rien démontage pour essayer de comprendre sa raison d'être ou ses raisons d'être, s'il y en a. Donc ce que Frédéric nous a invité à faire, c'est de lire donc le lien qui unit métaphore et concept, de le lire à l'envers, et donc d'entendre cette voix de Nietzsche qui nous dit qu'il y a une sorte de métaphore originaire. Donc des images mouvantes, jaillissantes, des créations pures qui sont l'écart même. Donc c'est le propre de la création artistique, dit-il. Puis donc, comme on a vu, Neyrat décrit la transformation absolue. Et puis, il avance contre cette dernière, il disait qu'il y a une transformation qui ne serait pas parfaite, qui se ferait avec des profits, bien sûr, mais aussi avec des pertes. Une transformation par laquelle quelque chose meurt, forcément, dans l'écart, dans la poussée en avant. Donc, comme tout se meurt d'être né. Donc, comment pouvons-nous relier l'exposition à cette argumentation philosophique qui met d'un côté la transformation parfaite, dans une fluidité mathématique, je ne vais pas revenir sur tout ça parce qu'on a pas mal parlé, mais en tout cas, que se passe-t-il dans ce dispositif qui pose en hypothèse le principe d'une transformation imparfaite qui laisserait des scories sur son passage comme des dépôts de preuves de vie et d'invention. Que se passe-t-il pour et par les œuvres et que se passe-t-il dans et devant les œuvres? Donc, plutôt que rien démontage, c'est une proposition expérimentale, comme je le dis, qui pose l'hypothèse que l'art appartient à ce second registre de la transformation, c'est-à-dire une forme de transformation imparfaite, et qu'il est consciemment ou non une entrave à la fluidification générale. Il se dépose, il fait masse ici ou là, et il entrave toute tentative de stabilisation du sens et d'interchangeabilité des opérateurs. Donc, comme dans tout dispositif expérimental, à l'origine de ce projet, il y a une forme d'hypothèse. Alors pourquoi, une question en forme de pourquoi partir d'une hypothèse? On pourrait objecter qu'une œuvre en elle-même ne contient pas d'hypothèse, ou alors qu'elle en contient de multiples qui n'appartiennent qu'à elle, à travers lesquelles l'œuvre ne répond que d'elle-même. Mais une exposition n'est pas une œuvre. En quoi une exposition pourrait-elle partir d'une hypothèse? Dans un dispositif expérimental, une hypothèse ne doit pas être forcément prouvée, elle doit être éprouvée. Que signifie donc éprouver une hypothèse? Ça veut dire que si l'on a un énoncé, ça veut dire que l'on a, pardon, un énoncé en amont dont on ne connaît pas la validité, mais qui nous semble faire sens et qui nous semble pouvoir ouvrir des pistes pour résoudre ou affiner la formulation d'un problème. Et on est prêt à voir cette hypothèse mise en crise ou bien même invalidée. dans le champ de la méthodologie scientifique, une hypothèse ou un faisceau d'hypothèses, puisqu'il peut y en avoir plusieurs, est à la source d'un protocole d'expérimentation. Elle se positionne comme postulat de départ, que l'on cherche donc à éprouver, mais sans savoir au préalable si cela sera confirmé ou infirmé. Il y a donc quelque chose de risqué dans une expérimentation, car une hypothèse n'est jamais définitive. Elle n'est jamais absolue, elle est instable et fragile, et elle se sait déjà obsolète avant même d'avoir servi. Elle est le point d'entrée d'un processus qui consistera toujours à la dépasser, car elle est toujours posée avant que commence sa mise à l'épreuve. Et ce processus est une démultiplication des conditions auxquelles l'hypothèse est soumise. Alors ici, quelle serait l'hypothèse ? Si on tente de reprendre le lien avec la préoccupation que Frédéric et moi avons en commun, et puis avec celle que de nombreux artistes participant à ce projet partagent, celle d'une puissance d'écart de l'art face à la transformation absolue qui absorbe tout dans le flux et ne laisse pas de dehors. Donc c'est la question de l'écart et du dehors. Donc ici, l'hypothèse est une sorte de prétexte pour poursuivre une expérimentation sans finalité réelle, autre que, pour reprendre Laurent Jean-Pierre qui a beaucoup travaillé sur l'expérimentation, l'intensification de l'expérience ordinaire, et je rajouterai une modification des conditions d'existence des paramètres de cette dernière, donc de l'expérience ordinaire, pour voir au réel ce que cela produit sans idée préconçue. Laurent Jean-Pierre parle encore de défaire une partie de l'environnement et de refaire une réalité artificielle, augmentée. Ici, il s'agit d'éprouver les codes de l'exposition collective à l'aune des notions de transformation, d'altération, de poussée et de flux, ce qui a eu pour effet de passer d'une mesure spatiale à une mesure temporelle pour la juxtaposition des œuvres. John Cage définit ainsi la notion d'expérimental. Le mot expérimental peut convenir pourvu qu'on le comprenne comme désignant non pas un acte destiné à être jugé en termes de réussite ou d'échec, mais simplement un acte dont l'issue est incertaine. Et c'est ce qui se produit ici. Une hypothèse en amont d'un protocole d'expérimentation n'implique donc pas forcément une finalité. Et pour finir avec l'analyse de Laurent Jean-Pierre, l'expérimentation artistique repose sur ce qu'il appelle une disposition particulière de l'agir plutôt que sur un contenu. Et c'est peut-être ce que peut donner cette impression d'éloignement des œuvres que l'on peut peut-être ressentir dans ce projet, surtout si on le regarde par webcam interposée. Et ces œuvres sont en réalité engagées dans un mode de visibilité tout à fait inhabituel qui invite à la réflexivité. Ça, nous y reviendrons. Alors, qu'est-ce qui se dégage des premiers moments de cet agir dans la disposition particulière proposée ici? Qu'est-ce qui a été défait et pour quelle reconstruction? Alors, je souhaiterais m'attarder sur trois relations essentielles qui résultent d'une configuration perturbée du rapport espace-temps. Donc, d'abord, la question du rapport entre l'œuvre et le dispositif et son contexte d'apparition, entre l'œuvre et une proposition curatoriale à laquelle l'artiste est invité à répondre. Effectivement, il y a une contrainte forte donnée à l'artiste, mais celui-ci est libre de s'inscrire dans cet échange. En tant que commissaire, j'ai proposé dès le départ un contexte clairement établi, avec une grille de paramètres, donc un lieu, un jour, d'autres artistes les autres jours, dans le même espace, et puis une liste de matériel et un budget. Et de l'autre côté, une visibilité publique. Et l'artiste s'approprie cette grille à ses propres fins, pour l'adapter à ses propres recherches et ses propres obsessions. Si on observe, cette grille est celle de toute exposition collective, en réalité. On aurait eu, pour une autre exposition, un lieu, d'autres artistes dans le même lieu, en même temps, sur une certaine durée, et puis bon, le reste n'aurait pas vraiment changé. Mais le rapport au temps change, comme change le temps de l'œuvre elle-même, le temps des œuvres les unes par rapport aux autres, et le temps entre les œuvres, bien sûr. C'est un temps furtif. Par exemple, Laurent Tixador a travaillé sur cette furtivité en proposant une sorte de chasse à l'homme ou le lancement d'une chasse à l'homme. Et Guillaume Aubry le fera aussi vendredi avec une action qui sera dérobée aux yeux du public. C'est aussi un temps perceptible spatialement, par exemple avec la mise en espace par Marie-Jeanne Hoffner mercredi dernier et la révélation progressive de l'espace par la captation des traces sur les murs, par frottage, par Julien Nedelec samedi dernier, ou bien un temps matière, comme la peintre LNG qui a soumis ses peintures aux variations du jour, hein, ou un temps moteur, comme Marie-Hélène Négro qui a proposé un frein, plutôt un frein moteur, avec son film Veg, qui était une sorte de résistance au vertige du flux, le premier jour, le 19 janvier. Ou alors encore un temps cadre, comme Simarie, qui a pris toute sa journée pour réaliser toute une série de micro-actions, qui étaient aussi autant de tentatives d'enrayer le flux, puisqu'il a utilisé des témoins de course-relais, non pas pour les faire passer, finalement, ce qu'il avait prévu de faire, mais plutôt pour les stopper dans certaines situations dans l'espace. Et puis un temps défi pour Kel Gleister, qui était là vendredi, qui a éprouvé sa capacité corporelle à déplacer d'un bout à l'autre de l'espace un archétype de sculpture. Donc c'est un temps qui n'est pas seulement ressenti, vécu, comme dans une exposition qui se passe, elle, dans l'espace, où les œuvres sont réunies dans l'espace, mais qui est aussi un temps agi et qui est le vecteur des œuvres, qui est un vecteur des œuvres, un vecteur important. On pourrait bien sûr rentrer dans ce sujet par la question de la performance, donc celle de la réalisation, de l'accomplissement par l'action. Et il y a évidemment des propositions comme celle de Frédéric Dumont hier, de Kel Gleister vendredi, et celle de Carole Bouillard qui sera présente le 10 février, qui proposent explicitement une performance. Mais on peut aussi lire l'aspect performatif sans le référent historique, c'est-à-dire en considérant juste le vocable anglais happening, c'est-à-dire ce qui se passe. Cela se passe à ce moment-là, à cet instant, à cet endroit, et aussi cela passe, cela va passer. Donc dans cette temporalité proposée ici, il y a déjà en germe la disparition imminente de l'œuvre. Alors c'est une question que l'on peut se poser, pourquoi il faut imposer aux artistes de voir leur œuvre disparaître si vite, c'est-à-dire au bout d'un jour? Alors, je n'ai pas encore de réponse à cette question, si ce n'est l'hypothèse dont j'ai parlé au début, c'est-à-dire l'ouverture de la possibilité d'un régime de visibilité encore inconnu. Et je pense qu'il est nécessaire de laisser l'expérimentation se poursuivre, de laisser les artistes œuvrer et générer, en fin de compte, peut-être d'autres hypothèses. Cette contraction du temps constitue pour la plupart des artistes l'opportunité de prendre par un autre biais leurs recherches et leurs obsessions. Un autre aspect de la situation des œuvres dans l'ensemble est leur isolation spatiale, puisque les œuvres donc ne se côtoient pas, donc les artistes ne se côtoient pas dans l'espace, sauf parfois évidemment quand un artiste vient rendre visite ici à la Maison Populaire et donc il y a une rencontre qui s'établit, mais en tout cas cela n'est pas comme dans un montage d'exposition classique où les artistes se retrouvent le temps du montage puis après se quittent et ne se voient plus. Là, cette isolation spatiale, elle est particulière. Donc le dialogue et les corrélations entre les œuvres ne se fait pas dans la présence plastique immédiate. Et ça aussi, c'est un phénomène qui n'est pas tout à fait clair encore dans ses conséquences pour l'œuvre et pour la démarche de chaque artiste. Mais bon, peut-être que certains artistes présents ce soir auront un éclairage à apporter, je ne sais pas. En tout cas, il y a des liens qui opèrent entre des œuvres. Donc ces liens sont à chercher autrement, peut-être d'un jour à l'autre ou d'une semaine à l'autre. J'en vois un entre le chemin de l'œuvre de Marie-Hélène Négro et celui qui était dans l'œuvre d'Armand Béart le lendemain, par exemple, et aussi entre la glossolalie de Frédéric Dumont et puis l'œuvre de... Donc la glossolalie, c'est la capacité préconsciente de parler toutes les langues, hein, c'est bien ça, Frédéric. Et puis l'œuvre de Julien Lustry, donc aujourd'hui, avec cette utopie ou cette dystopie d'une conscience machinique qui absorberait toute interrogation existentielle dans un automatisme absurde qu'on a pu entendre régulièrement. Et de plus, cette isolation spatiale des œuvres est doublée d'une isolation des artistes les uns par rapport aux autres, ce qui n'est pas négligeable, et qui est un effet indésirable de l'expérimentation, parce que l'expérimentation a aussi produit aussi ce type d'effet, à laquelle j'ai jugé bon d'apporter une modification en leur proposant un forum commun également accessible aux membres de l'équipe de la Maison Populaire pour échanger des remarques et des questions sur le processus en cours et sur les œuvres. Et enfin, la question de la cohérence d'ensemble peut être posée. Donc, quelle consistance l'exposition elle-même va-t-elle donner à chacune des œuvres? Quel dialogue vont s'instaurer? Quelle force les œuvres vont-elles se donner mutuellement? qu'il y a dans plutôt que rien démontage un renoncement à l'orchestration du contenu et des formes, car le protocole proposé est une base orchestrale qui tente de trouver un point d'équilibre entre ordre et chaos et laisse de la place pour l'imprévu, le non écrit, le hasard, et chaque production vient transformer l'ensemble sans que l'on puisse maîtriser ce mouvement. C'est aussi une donnée d'expérimentation. Écrire un scénario en maîtrisant à l'avance l'enchaînement des propositions des artistes ne m'intéressait pas pour ce projet. En revanche, il est important ici de trouver un fil conducteur ou un repère stable pour prendre la mesure du mouvement et de ce qu'il dépose. Ce peut être par la restitution visuelle en temps réel du projet, par la webcam, ou par ces traces qui prennent ici une importance particulière. Un autre mode de relation que je voudrais aborder de manière plus succincte maintenant, c'est bien sûr le rapport entre l'artiste et son œuvre, puisque ici, le rapport que l'artiste installe avec son œuvre, qui est encore en travail, donc c'est avec une œuvre qui est encore en travail, et pourtant elle est déjà montrée. Donc on est dans un espace qui est dédoublé, entre atelier d'un côté et espace d'exposition de l'autre. Et donc ça a pu être ressenti et travaillé par différents artistes, comme Laurent Dixador, qui me disait qu'il est en fait une sorte d'artiste de salle de bain, puisque tous les jours il déploie ses éléments artistiques et son bricolage dans sa salle de bain, et à 6h30 doit tout ranger pour que sa compagne puisse vivre dans son appartement. Marie-Jeanne Hoffner aussi avait l'impression d'être dans un atelier. Ainsi que Armand Béard, qui pouvait tester son propre dispositif, le transformer, le réadapter au gré de la journée, comme l'est un studio de tournage, puisque c'est ce qu'il avait proposé, qui change selon les plans à tourner. Il y a aussi la question de la présence de l'artiste dans l'espace ou non, qui est très importante. Qu'est-ce qui change quand l'artiste est au travail, lorsqu'il reste là, disponible auprès de ses œuvres, exposé, mais n'intervenant pas dessus, comme LNG par exemple, ou quand il décide explicitement de s'absenter, comme Marilène Négro, dont le film est celui d'une disparition, et qui avait décidé de disparaître d'un lieu où elle était invitée à apparaître avec son œuvre. Et on peut aussi rajouter la présence de la commissaire dans l'espace, la moitié du temps, qui est présente sur place, et de Frédéric Nera. Alors pour ce dernier, non pas comme ce soir dans l'espace, mais par le biais de l'Internet interposé, puisqu'il peut intervenir à tout moment, de manière impromptue, dans l'espace de l'exposition, mais aussi en ligne, sans qu'on soit prévenu. Et le dernier mode de rapport que je voulais vous proposer, sur lequel je voulais vous proposer de parler, c'est le rapport de l'œuvre au public. Puisque c'est une exposition qui interroge fortement le régime de visibilité de l'œuvre et de l'exposition aussi. C'est-à-dire la manière dont un public voit les œuvres. Ce public se compose ici d'au moins trois types de spectateurs, donc les visiteurs venus de l'extérieur, donc principalement de Paris, mais bon, aussi d'autres banlieues, les adhérents qui sont donc de façon au moins hebdomadaire de passage dans le centre d'art, qui passent par là et par là et par là, qui sont très nombreux, donc 2000, hein, je crois, à peu près. Et puis les internautes qui sont dans un autre espace. Alors pour les visiteurs, généralement les visiteurs de la maison populaire sont habitués à être informés sur ce qu'ils vont voir sur place à l'avance, donc avec une liste d'artistes, avec des repères. Et là, ils ne maîtrisent pas ce qu'ils vont voir puisqu'il n'y a pas eu de liste d'artistes globale donnée en amont. Et on les invite à vivre un processus en cours, en devenir, et souvent avec la présence de l'artiste lui-même sur place. Pas toujours, hein, les artistes ne sont nullement assignés à résidence. Donc il y a la possibilité pour le public aussi de prendre du temps pour une œuvre, pour une proposition, contrairement à d'autres expositions. Du côté des adhérents, donc ils passent, hein, et ils ne font souvent que passer. Donc ça, c'est un travail qu'on essaie de mener avec la Maison Populaire. Hein, et tout un travail qui est fait auprès d'eux. Et c'est vrai que pour moi, ils ont compté dans la conception de cette exposition parce que cette maison a quand même une spécificité. Elle a sa vie propre hors du centre d'art, hein, et elle est habitée d'énergie qui n'est pas forcément tournée vers le centre d'art. Et ça paraissait très important. Et puis les internautes qui peuvent suivre à tout moment le processus, y compris moi quand je suis à Rennes, la moitié du temps, mais qui ne verront pas l'œuvre dans ses détails. C'est d'ailleurs très intéressant pour moi de vivre l'exposition à ces deux endroits. Parce que je comprends bien, et de mieux en mieux d'ailleurs, ce double régime de visibilité, celui dans l'espace, avec un rapport plastique, enfin un rapport vraiment physique aux œuvres, et puis celui qui relève du processus suivi avec un point de vue toujours similaire. Donc c'est vrai qu'on lit par la webcam plus la transformation que chaque proposition en tant que telle. Donc ce qui est intéressant, c'est que le rapport à l'œuvre se fait toujours dans l'espace, et c'est quand même la preuve qu'il faut des organes pour vivre une... Peut-être qu'une œuvre, c'est toujours une affaire de corps et d'organes. Il y a aussi quelque chose de troublant dans le rapport au public, et j'en ai bientôt fini, c'est l'exposition... C'est l'exposition des temps non finis, c'est-à-dire où l'œuvre est à vif, en fait, elle est en devenir. Et on peut se dire qu'il y a une certaine obscénité à laisser voir ces moments qui sont des moments propres à l'expérimentation. Et sans doute faut-il accepter cela, en tout cas dans le cadre de cette exposition. Et enfin, les expositions d'art contemporain sont des lieux peu visités, hein, il faut se le dire quand même, on n'est pas toujours là pour le voir. Surtout des lieux périphériques, mais quel lieu central à Paris aurait accepté un projet comme celui-ci, je me le demande vraiment. Et c'est cette réalité, il est facile de ne pas la voir, puisque généralement quand on est artiste ou commissaire, on est là pour le montage de l'expo, puis après on passe de temps en temps, mais on n'est pas là tout le temps. Et c'est vrai que c'est quelque chose avec lequel là, c'est quelque chose qu'on éprouve vraiment au quotidien, c'est-à-dire ce mode de relation entre l'œuvre, l'artiste et le public, qui est ici vraiment quelque chose de très particulier. Voilà. Alors, il y a quelques artistes, je ne sais pas si vous avez envie d'apporter quelques éléments supplémentaires. Il y en a certains qui sont déjà intervenus, puis d'autres pas encore. Alors, voilà. Ça a été un peu long, désolé.
Si vous permettez, une question de curiosité. Dans le document qu'on trouve ici en arrivant, on comprend que c'est une première étape.
Oui.
Donc il y a deux autres étapes encore à venir après.
Oui. Oui, il y a une deuxième étape en fait qui sera donc toujours pré-titrée, donc plutôt que rien, avec un appendice, on va dire, sur laquelle je suis en train de travailler maintenant avec Frédéric Mera, donc qui sera, je pense, dans la continuité de ce projet. J'attendais en fait pour... définir vraiment les termes de cette deuxième proposition d'être dans le temps de la première. Donc c'est un risque aussi parce que le temps est très court, mais on va y arriver comme on est arrivé à faire ça aussi dans un temps relativement court. Et puis donc ça commencera le 26 avril hein, jusqu'au 2 juillet, et puis un troisième temps après l'été qui lui je pense sera relativement différent avec une collaboration avec le collectif Art Orienté Objet. Non pas sous la forme d'une exposition monographique, hein, mais plus d'un temps partagé avec eux, dans lequel on va essayer de faire venir aussi des dehors et de relier d'une manière ou d'une autre le projet de la Maison Populaire à Montreuil. Voilà. Donc,
toujours ici, hein, bien sûr.
Oui, toujours ici,
c'est
bien sûr.
C'est le principe d'avoir les trois phases.
Voilà, parce qu'Annie, effectivement, a ce principe qui est vraiment très intéressant de laisser le temps à un commissaire ou un collectif de commissaires de développer un projet sur un cycle relativement long, ce qui n'est pas la temporalité d'un événement de type donc biennage, comme vous avez pu voir. Voilà. Ce qui est assez rare, en fait.
Ouais. On est les seuls, je crois.
Vous êtes les seuls.
Les pionniers.
Bien, bravo d'avoir entrepris ce grand chemin.
Bah, oui, bravo aux artistes, parce que oui. C'est pas facile, je crois, pour eux aussi de...
Bien sûr.
De se prêter au jeu, parce qu'effectivement, il y a cette fameuse coquinée avec un mouvement assez rapide de passage et de disparition. Mais c'est vrai que j'ai été très étonnée quand j'ai... lancer cette proposition des retours extrêmement de la réactivité de la suite. Je crois que c'est cette question de la transformation du flux, c'est quelque chose qui est quand même dans les préoccupations. Oui.
Non, mais c'est vrai que c'est un temps différent à celui qu'on a vécu avec Thomas Hirscher, n'est-ce pas, avec
ils sont philosophes aussi. Mm-hmm. Et, très bien. Centre-ville, bien sûr, accepté par une personnalité comme celle qui était le directeur à l'époque du Centre-ville suisse. Mais bon, c'est la temporalité, n'est-ce pas, de la production chaque jour par un seul artiste. Mm. D'ailleurs, il est allé jusqu'à, je crois que c'est 45 jours. Vous faites 47, non? Vous faites 45?
45 à peu près. 45. Il y aura peut-être une case vide. C'est bien les cases vides, ça donne un appel d'air, en fait.
Ça te permettra de mimer beaucoup, hein. Parce que je réalisais ça en même temps quand je vous écoutais. Chaque nuit, ici, on restitue le vide qu'on a vu à Beaubourg. C'est assez magique.
Le vide des expositions, du vide.
L'exposition, voilà. L'exposition vide, oui, avec vrai, un S, oui, c'était assez extraordinaire. Ouais, magique.
Donc, quelques années après, il y a l'expérience qui se passe récemment à Pompidou, n'est-ce pas, cette espèce d'habitation constante, soi-disant que c'était une des premières idées de Pontus-Huitain, n'est-ce pas, pour revenir. Là. Et je reviendrai donc à la proposition que vous faites, que je suis ravi aussi de participer, de voir par Internet, cette œuvre Internet, je ne sais pas si ça peut. L'œuvre dans le web, je ne sais pas, parce que c'est peut-être là où on serait plus accro.
Oui.
Pour peut-être pas trop se déplacer. On voudrait se déplacer effectivement aussi, parce qu'on a déjà vécu cette expérience de. C'est au bout de la 10e fois qu'on devient accro. Je crois que peut-être même le voisinage, résident d'ici, tu vois, c'est ça, à un moment donné, qui va développer l'espoir. Mais bon, il reste la question des artistes, vous savez, citer quelques-uns d'ici, et vous avez dit que c'est un peu difficile aussi pour eux, et n'est-ce pas de réduire cette pièce. J'utilise déjà les mots réduction, c'est pas réduction non plus. Donc de vivre cette expérience, n'est-ce pas? Jouer les jeux avec une commissaire, avec un jeune philosophe. C'est quelque chose de très partagé. Et donc il doit avoir un travail en amont très fort aussi entre vous, les philosophes et les artistes. Les autres, donc ce n'est pas non plus l'acte, n'est-ce pas, journalière. Donc il y a tous ces éléments là qui vont se jouer maintenant, et chacun prend de sa course à part après, n'est-ce pas, vous continuez dans cette expérience pour toute l'année 2011, c'est attentif à ce qui va venir, et c'est vrai que ça se rejoint à votre projet, n'est-ce pas, puisque si on prend les publications, on voit qu'il y a déjà ces trois expos qui se font pendant l'année, donc on attend votre catalogue aussi, n'est-ce pas, à la fin aussi. Donc il y a toutes sortes de sentiments, je pourrais dire, de nous, visiteurs, artistes, moi je suis artiste aussi, et à un moment donné peut-être on pourra se demander où est-ce qu'est arrivé, c'est pertinent chez vous, bien sûr c'est une expérience. J'ai pu voir un peu ce qui a été fait aussi à Rennes. Mm. C'est bien, c'est une grande expérience aussi. Donc, je sais que cette expérience a été dite aussi dans cette réunion qui a été faite la semaine dernière d'un jeune commissaire. Donc, c'est quelque chose aujourd'hui que tout le monde est nerveux, n'est-ce pas? Où ça va? L'œuvre, qu'est-ce qui se passe? Les idées, les choses comme ça. Donc, où est-ce qu'on pourrait, pour peut-être donner un mot, où est-ce que ça pourrait être, n'est-ce pas, c'est pas peut-être ce que vous avez discuté tout à l'heure, les manants. Et quel serait maintenant de avoir une espèce de ciment, pour pas dire pilier, n'est-ce pas, de toutes ces pensées, comment on pourrait la dénommer? C'est encore de la résistance.
Je sais pas. Moi, je parlais d'entrave ou de.
Oui, c'est
vrai. C'est vrai que j'ai pas parlé de résistance, mais c'est plutôt. Mm-hmm. Je dirais qu'on est.
Et l'émancipation, donc je parlais
aussi. Ouais, mais ça, c'est encore. Ouais, l'émancipation, c'est un terme qui est aussi assez problématique.
Ouais.
Oui, parce qu'en fait, l'émancipation, c'est couper aussi quelque, c'est couper de quelque chose, en fait. C'est s'échapper de quelque chose, mais... non.
Et sans doute, c'est très politique aussi. Hein. C'est pas vrai non plus. Mais bon. Mais politique dans les sens dont il parlait aussi tout à l'heure.
Mais je sais pas, je pense que la dimension politique d'un projet comme celui-là, elle, on peut pas la décréter, en fait. Enfin, j'ai l'impression, donc...
En tous les cas, elle ne rentre pas dans une politique publique. Je veux dire que c'est pas... on n'est pas dans ce qui est demandé dans les institutions de faire aujourd'hui.
Non, donc, il faudrait une liste d'artistes...
On est quelque part en rupture dans la monstration, bon. Dans la visitation, dans l'exposition, dans le discours, dans... Voilà, et y a quelque chose en soi qui se met en dehors. On parlait beaucoup du dehors, mais voilà. Dehors, on est en dehors de quelque chose, on se met en dehors, en retrait de quelque chose, à mon avis. Donc en même temps, cette nécessité qu'il y a en permanence d'expliquer, d'argumenter l'institution par rapport à ce qui est en train de se faire là. Mm. En même temps, il y a un regard attentif, puisque voilà,
oui, ça c'est
il y a un regard attentif de voilà, qu'est-ce qui va se passer, parce que c'est assez singulier, donc il y a de l'attention.
Il y a du doute, beaucoup.
Du doute.
Il y a de la méfiance.
On partage aussi, mais en même temps.
Mais c'est vrai.
Plutôt que rien. Il se passe quelque chose. Moi, voilà.
Mais est-ce qu'il n'y a pas une espèce d'assurance en soi? Parce que c'est vrai, quand même, il a des énergies costauds qui ne laisseront jamais tomber, n'est-ce pas? On sait.
Une assurance
des artistes?
Non, une assurance de nous tous. Parce qu'on est quand même. On s'embrasse, n'est-ce pas, une centaine de penseurs, peut-être, aux 80, je ne sais rien. Et ça, l'institution ne peut rien faire, puisque même si c'est éloigné, peut-être ils peuvent critiquer l'histoire du public ou autre. Et mais là, on est une espèce d'assurance dans laquelle on est assez sûr qu'un projet comme ça, ça nous mène quand même.
Dans l'imaginaire.
Après, l'imaginaire, mais l'histoire de l'échec, c'est. Je me rappelle toujours
avant
Mobilin, tu sais, Thomas Hirschhorn qui dit, une fois qu'il a fait tous ces trucs, c'était un échec, machin, mais c'était encore pour se dire que c'était costaud.
Ah,
et qu'il
n'y a pas d'échec possible, donc il n'y a pas de dehors de la
réalité. Donc ici, je ne crois pas qu'il n'y aurait pas de l'échec possible. Ça, tu peux te l'assurer dans l'année avec l'énergie des individus, des artistes avec lesquels toi, tu es entouré, ici, on est tous entourés, n'est-ce pas? Parce que c'est quelque chose d'une éthique, une responsabilité, il y a une concentration, donc c'est magnifique, c'est ça qui aussi.
Alors ce qui serait intéressant, je ne sais pas, parce qu'en même temps, ce qui m'a intéressé dans cette démarche, c'est qu'il y a des ajustements, des questions, au fur et à mesure, qui sont traitées comme autant de flux, mais d'une autre nature. J'appellerais moi énergie. Alors ce qui serait intéressant, ouais. C'est comment. Comment, comme une boule de neige, accumuler cette énergie, ce flux d'énergie, est-ce qu'elle est en train de s'accumuler, prendre de la puissance ou non? Moi, ça m'intéresse beaucoup.
Moi, je le crois. Alors, peut-être que ça ne se voit pas voilà. Au fur et à mesure. Là, ça fait 10 jours.
Ça fait
2 semaines. Et c'est vrai que donc, ce forum dont je parlais, qui est un espace... Pour les artistes, l'équipe et Frédéric et moi, pour le moment, je n'ai pas souhaité l'ouvrir au public, en fait. Bah, par contre, l'idée, ce serait d'en faire part au public. Mais en tout cas, c'est un espace, pour moi, de sédimentation. On pose des jalons, on se contredit, peut-être on voit ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas, on échange. Et donc, pour moi, ça, c'est en travail. Et de ce travail, on va faire quelque chose, c'est-à-dire... C'est vrai qu'il y a une trace, il y a un catalogue, il y a, je ne sais pas quelle forme il aura, peut-être pas celle-là.
Les mêmes.
Mais effectivement, mais ça c'est très important. Je pense qu'un projet comme celui-là ne peut pas se faire sans ça. Sans
trace.
Ouais, enfin, sans un travail permanent de la réflexion, de l'échange, de la remise en cause, du doute, d'avancer. Et c'est ça déjà commencé. Ça a déjà commencé dès le départ.
Forum, effectivement, il y a un forum public, presque, où les gens se rencontrent, se concentrent, mais en même temps,
obsolète. Totalement obsolète.
En même temps, forum, là, ça fait penser à d'autres choses. Forum, on se réunit entre des gens d'un même groupe, je parle des artistes par exemple, ou des commissaires et tout ça, et on essaie de redéfinir des choses. Un mauvais exemple, le forum de Davos. Mais oui, dans ce sens-là, de forum, c'est-à-dire de, oui. presque de.
De ramener ensemble mais on rassemble des idées à partir d'un existant qui est en travail en fait. C'est ça qui est intéressant aussi avec cette situation, c'est-à-dire qu'on peut partager c'est comme ça que je le vois en tout cas ce forum, moi. C'est justement qu'à partir de cet existant qui mouille chacun en fait, hein, dans lequel on est tous mouillés, en tout cas tous ceux qui peuvent participer à ce forum. C'est aussi la possibilité de rebondir et de poser d'autres hypothèses, ce que je disais tout à l'heure. D'essayer de voir ce qui marche, ce qui ne marche pas, quelle porte ça peut ouvrir, quelle porte ça ferme. Moi, ça me fait beaucoup avancer. Je ne sais pas vous, mais moi, ça me fait beaucoup.
Moi, ce qui m'intrigue dans ce projet, c'est que j'ai l'impression que tu sauras ce que tu. À la fin, ce que j'ai fait. Tu sauras le définir. Non, mais c'est ça qui est intéressant, c'est que quand on fait quelque chose, on fait vraiment.
En tout cas, moins mal qu'aujourd'hui.
À mon avis, c'est la définition de l'art. C'est pour ça que lorsque, en fait, dit que l'exposition n'est pas une œuvre, ou un concept comme celui que tu instaures n'est pas une œuvre, je ne suis pas tout à fait d'accord.
Oui, là, ça se rapprocherait.
Je trouve que tu. Je trouve que tu. Ta dernière intervention, je la trouve extrêmement intéressante, et c'est peut-être ça qui est véritablement politique, dans le sens où tu réfléchis vraiment sur la méthodologie que tu mets en expérience. Je trouve que tu travailles le code source avec le public et avec les artistes, et ça, je crois que c'est à la fois rare et et passionnant.
Ce que tu dis là, Julien, par rapport à ce que tu dis, François, effectivement que la prévision ou l'anticipation d'un projet comme celui-là est totalement remis en cause ou obsolète, en tout cas moi je le vois comme ça, c'est aussi parce que justement ce code source ne peut être travaillé que s'il y a des retours en fait, de la part des artistes, de la part du public. Enfin, c'est comme ça que les choses se tricotent au fur et à mesure en fait.
C'est là où j'aurais un petit dissensus, c'est que je crois que les rôles désignés ne sont plus du tout aussi clairs qu'on puisse les énoncer de façon très distinctive entre ce qui est l'artiste, ce qui est le commissaire, ce qui est le public.
Mais
il y a des acteurs qui, à un moment donné, vont être concernés par les méthodologies de l'art, et ça peut être aussi bien, à mon sens, le public. Et il me semble que si, bon, peut-être que le mot émancipation est un peu devenu pas facile à employer, mais en tout cas, si l'art n'est pas du côté de l'autonomisation de ceux qui le concernent, je ne vois pas beaucoup son intérêt. Et en ce sens, l'autonomie, à mon avis, ne peut pas être réservée à un rôle spécifique, mais ça devrait préoccuper chacun des rôles de mettre en travail ceux qui concernent tous. Je ne fais pas de démagogie en parlant de culture. Mais je ne peux pas m'empêcher de penser.
Tous.
Quelque part, nous serions en résistance, malgré tout.
Ah ben, j'espère bien.
Voilà. Donc, c'est la question qui a été posée tout à l'heure.
Enfin, maintenant que je parle, j'aurais aimé dire, mais il est parti, que je ne suis pas du tout d'accord. Je ne suis pas du tout d'accord avec Frédéric Mira quand il dit que Lacan, c'est le refuge imaginaire, que je crois que justement Lacan, c'est celui qui répond à une question qu'il a posée, c'est-à-dire, et qui me paraissait extrêmement importante, c'est de quoi les mots sont-ils capables. Et que ce dans quoi on est, c'est justement le, tous ces processus de rupture qui font en sorte que les mots soient capables de rien. Et donc, c'est bien ce dont les mots sont capables qui nous concernent, ce dont les œuvres sont capables qui nous concernent. Voilà, c'est bien, me semble-t-il, le sujet, c'est-à-dire soustraire quelque part les œuvres à la marchandise pour que les œuvres deviennent enfin capables de quelque chose.
On démonte.
On démonte. C'est à vous.
C'est parfait. Super. Merci.